également ok, voilà, nous allons donc voilà, il y a un petit bruit là. Je disais, nous allons nous préparer à l'écoute de sa parole, mais avant cela, j'aimerais saluer chacun de vous très fraternellement et vous dire combien nous sommes ravis de votre présence à notre première soirée consacrée donc une fois de plus à un des dangers que court l'Église de Jésus-Christ, surtout dans ces temps de la fin. Je voudrais vous dire que vous avez bien fait de venir et passer ces quelques instants avec nous ici à la borne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, soyez tous les bienvenus et qui que vous soyez, nous nous ferons un plaisir immense à la fin donc d'accueillir peut-être des gens qui seraient là pour la toute première fois. Mais en attendant, eh bien, soyez les bienvenus, sachez que vous êtes dans la présence du Seigneur et que Dieu est là et qu'il vous aime et qu'il a quelque chose à vous transmettre. Alléluia. Je voudrais vous demander de vous saluer très fraternellement. Saluez votre voisine, votre voisin de gauche ou de droite avec un sourire biblique. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Nous saluons nos amis qui sont sous le chapiteau. Gloire au Seigneur. Si vous nous entendez, veuillez répondre à nos salutations par des cris de joie. Gloire à Dieu. Nous saluons tous nos amis. Voilà, ça ce sont nos amis qui sont ici. Donc, il y en a qui sont sous le chapiteau. Ceux qui sont ici derrière l'église, dans le jardin, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Si vous nous entendez, criez très fort. Gloire au Seigneur et ceux qui sont sur le parking ici, nous les saluons également. Ceux qui sont dans la cour de l'école maternelle, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Et tous ensemble, eh bien, nous vous saluons une fois de plus au nom du Seigneur. Voilà, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, nous voulons lui exprimer toute notre gratitude à l'occasion de cette première soirée réservée donc à notre séminaire sur, comme je viens de le souligner, un des dangers qui guette l'Église de Jésus-Christ alors qu'elle s'approche sûrement, lentement, mais sûrement de ce grand événement qu'elle connaîtra, à savoir son enlèvement dans la gloire et ce, à la rencontre de son Seigneur sur les nuées. Pendant que l'Église avance, semblable à un navire qui est ballotté par toutes sortes de vents contraires, par toutes sortes de tempêtes. Pendant que l'Église avance, elle est de plus en plus soumise à toutes sortes de pressions extérieures et à toutes sortes aussi de pressions intérieures. Et par conséquent, l'Église se doit de tout faire pour rester attachée à son Dieu, car il y va de son salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est pour permettre à l'Église, justement, de prendre conscience de ce danger qui la guette, pour permettre à chacun de nous de prendre conscience du danger qui est toujours là, présent, permanent, eh bien, par rapport à tous ces esprits séducteurs, oui, pour permettre à chacun de nous d'en être conscient que nous avons organisé ce séminaire, et nous pensons que vous avez été bénis par le premier séminaire consacré à Jézabel, et si vous ne l'avez pas été, ce n'est pas un problème. Il y aura aussi des bénédictions dans ce deuxième séminaire consacré au même esprit, à savoir l'esprit de Jézabel. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que nous allons passer deux moments merveilleux. Et nous sommes déjà en train de passer deux moments merveilleux. Alléluia. Je voudrais remercier notre sœur Mamie Atezoma pour cette direction. Et toute la chorale, l'union musicale et les instrumentalistes. Aujourd'hui, c'est elle qui a eu la lourde responsabilité, donc, de diriger cette première soirée. Demain, ça sera notre sœur Candy. Et après-demain, ça sera donc notre sœur Dena Moana qui interviendra la dernière soirée, donc le vendredi. Vous voyez, il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont là en réserve pour chacun de nous. Alors, nous sommes venus aujourd'hui. Faisons tout pour être là demain. Faisons tout pour être là également le... Et comme à tous les séminaires, le vendredi en 8, donc la semaine prochaine, nous aurons une soirée spéciale au cours de laquelle nous prierons par rapport à tout ce que nous aurons reçu comme enseignement en rapport donc avec ce séminaire. Voilà, nous allons donc respecter la manière d'agir. Il y a ces trois soirées réservées à l'enseignement de la parole de Dieu. Ensuite, il y a donc le vendredi qui vient, la semaine prochaine, où nous allons enfin nous retrouver, comme nous l'avons fait les autres fois, dans sa présence, à prier, à intercéder, pour essayer de voir et d'expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Car ceci a toujours été notre prière, que notre enseignement ne soit pas simplement un enseignement qui est le résultat, le produit, la maîtrise de telle ou telle autre connaissance en rapport avec la Bible. Mais nous voulons que nos enseignements, nos prédications soient à chaque fois une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Voilà pourquoi donc nous réservons un vendredi spécial où nous prions. Donc si vous voyez que nous n'avons pas suffisamment de temps pour prier par rapport à tel ou tel autre sujet, eh bien ne vous en faites pas, il y a un vendredi qui est entièrement consacré à ce genre de prière. Que Dieu soit béni. Nous allons sans plus tarder incliner nos têtes dans la prière. Je voudrais demander à chacun de nous de pouvoir se tenir très objectivement devant Dieu et lui dire: Seigneur, je suis là pour toi. Je suis venu dans ces séminaires pour recevoir quelque chose de ta part. Seigneur, je suis là parce que je suis dans un besoin. Et mon besoin, c'est d'abord et avant tout te connaître, mieux te connaître pour mieux te servir. Seigneur, je suis là parce que je voudrais être renseigné par rapport à ce vent de séduction que l'esprit de Jézabel suscite de plus en plus. Seigneur, je suis là parce que j'ai un besoin, car au-delà de cet enseignement en rapport avec Jézabel, Dieu est capable de vous rencontrer dans votre besoin physique, Dieu est capable de vous rencontrer dans votre besoin spirituel, Dieu est capable de vous rencontrer dans votre besoin de salut. Et nous prierons du reste par rapport à tout ça. Mais avant toute chose, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, c'est avec beaucoup de reconnaissance que je me tiens devant toi à l'occasion de cette première soirée consacrée à notre deuxième séminaire sur ce danger que représente l'esprit de Jézabel. Nous voulons te remercier, ô Seigneur, de nous avoir gardés, de nous avoir aidés à préparer ce séminaire, Seigneur, et d'avoir commencé, ô Dieu, cette soirée, ce premier rendez-vous avec nous. Merci pour tout ce temps qui ont été consacrés, Seigneur, à la louange, à l'adoration, ce moment qui nous ont permis de nous réjouir en ta présence, ce moment, Seigneur, qui nous ont permis de nous tourner vers toi, Seigneur, et de t'exprimer nos sentiments d'une manière ou d'une autre, nous tourner vers toi pour lever nos mains en ta direction, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Roi des Rois, toi qui mérites, Seigneur, que nous puissions faire de nos vies une louange et une adoration chaque jour qui passe. Merci de poser ta main sur ton peuple qui est là, Seigneur, qui a répondu nombreux à ton invitation. Seigneur, je te bénis pour la soif qu'il y a dans le cœur de ton peuple, de mieux connaître ta parole, surtout dans ces temps de la fin où toutes sortes de choses sont véhiculées, où toutes sortes de révélations, Seigneur, sont communiquées. Ô Dieu, ton peuple a besoin de connaître la véritable parole, celle qui vient, qui sort de ta bouche, celle, ô Dieu, qui a son écho dans ta Bible, celle, ô Dieu, que tu nous révèles au travers de ta parole, que sont les saintes Écritures. Bénis chacun de nous, bénis ton serviteur, donne-lui la capacité, Seigneur, l'intelligence et l'esprit pour pouvoir, ô Dieu, parler de ta part, pour pouvoir être ta bouche auprès de ton peuple, qu'il ne soit qu'un porte-parole parmi tant d'autres. Seigneur, merci de nous arroser par ta présence maintenant. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Très bon appétit. C'est la parole de Dieu, elle reste et demeure une véritable nourriture pour nos âmes. L'Église en danger, esprit de Jézabel. C'est donc le deuxième épisode de ce chapitre consacré à cet esprit destructeur, à cet esprit séducteur qui étend son emprise, son ombre de plus en plus sur l'Église. Et je voudrais, avant de de vous partager ce que le Seigneur nous a mis sur notre cœur. Je voudrais lire avec vous dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. C'est le texte que nous avions déjà lu. Et je voudrais revenir là-dessus. Apocalypse chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. 12 versets qui sont donc consacrés à l'église de Thyatire, une église qui, hélas, a manqué de sagesse, a manqué de discernement et a laissé malheureusement, et ce pour sa perdition, sa destruction, eh bien une fausse prophétesse du nom de Jézabel agir et exercer son influence dans cette église. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite ou de sa fornication, c'est le mot pornéa qui est donc utilisé en cet endroit. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il le fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que le peuple de Dieu dise Amen. Gloire au Seigneur. Église en danger, esprit de Jézabel. Depuis quelques mois, nous sommes dans ce registre consacré aux différents dangers qui guettent, qui menacent l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'ensemble de ces hommes et de ces femmes qui sont tous passés par l'expérience de la nouvelle naissance, des hommes et des femmes que le Saint-Esprit est allé chercher dans le monde. Voyez-vous qu'il a libéré de tel ou tel autre joug et qu'il a fini par introduire dans le corps du Christ que la parole de Dieu présente comme étant, eh bien, son corps, son Église. Gloire à Dieu. Dans ce temps de la fin, comme je le soulignais, dans ce temps qui nous rapproche, mes amis, du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église, eh bien, nous pouvons voir autour de nous, voir parmi nous, que l'Église est de plus en plus exposée à toutes sortes de dangers. Nous avons ouvert ce registre avec les deux premiers séminaires consacrés aux deux premiers dangers, à savoir l'esprit de Bélial et l'esprit de Gabata. Voyez-vous, nous avons pris du temps pour montrer à l'Église, eh bien, quelles étaient ces forces du mal, ces incarnations de puissants des ténèbres qui agissaient de plus en plus parmi le peuple de Dieu. Et nous avons donc poursuivi, après Bélial, après Gabata, avec l'esprit de Jézabel. Et à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'au vendredi, donc le vendredi 10, il va être question de cet esprit de Jézabel. Nous n'avons pas pu terminer tout ce qu'il y avait à dire sur cet esprit, car il y en a tellement qu'il a fallu donc étaler, diviser ce séminaire en deux parties. Une première partie au mois de mai, et puis cette deuxième partie ici au mois de juillet. Par la séduction et la manipulation, par toutes sortes d'artifices, mes amis, ces esprits séducteurs arrivent à créer des conditions morales et spirituelles auprès des serviteurs et des servantes de Dieu, arrivent à créer un contexte spirituel et moral parmi le peuple de Dieu, contexte qui empêche, mes amis, à l'Esprit de Dieu de pouvoir agir en toute liberté au milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur nous attire à lui. Le Seigneur a un projet pour chacun de nous. Le Seigneur a un but pour nos vies. Il nous a sauvés de la perdition éternelle. Il nous a sauvés du pouvoir du péché et de la mort. Il nous a introduits dans une relation existentielle avec lui. Et maintenant, eh bien, il est à l'œuvre. Il poursuit ce travail de perfectionnement dont l'objectif final est de nous faire ressembler à lui et ce en toutes choses. Alléluia. Tel est donc le but final. C'est de ressembler, mes amis, à Jésus-Christ à tout point de vue. C'est d'avoir une vie qui reflète, qui manifeste, qui resplendisse, eh bien, la gloire de Jésus-Christ ici sur terre. Or, ces esprits-là, séducteurs, essayent par tous les moyens de créer des conditions en nous et autour de nous pour empêcher le Seigneur de pouvoir accomplir son œuvre dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur et dans toute sa magnificence. Gloire à Dieu. Mes amis, nous l'avons souligné la fois dernière, la conjonction, la conjugaison de ce trois esprits-là, Bélial, Gabata et Jézabel, arrivent donc à créer des conditions très défavorables pour l'Église. Ces trois esprits-là arrivent à créer des synergies destructrices parmi le peuple de Dieu, empêchant ainsi à l'œuvre de Dieu de s'épanouir dans toute sa gloire. Ces trois esprits-là font partie de ce que nous avons appelé une sorte de constellation démoniaque qui exerce, et ce de plus en plus, et surtout dans ces temps de la fin, une emprise mortifère sur toutes les assemblées qui se réclament de Jésus-Christ. Le diable est très subtil et très sournois. Mes amis, il n'est jamais à l'aise lorsqu'il voit un homme ou une femme, eh bien, s'épanouir comme il faut en Christ. Il n'est jamais à l'aise lorsqu'il voit une église qui avance sous l'impulsion du Saint-Esprit. Le diable est dérangé et il fera tout pour essayer de distraire cet homme ou cette femme qui essaye autant que faire se peut de marcher selon les prescrits de la parole de Dieu ou alors empêcher une église d'avancer, d'aller de gloire en gloire. N'oublions jamais que l'église reste et demeure la cible privilégiée du monde des ténèbres. Ça serait faux de croire que le diable, au bout de presque 2000 ans d'attaque constante contre l'Église, se serait quelque part fatigué et il aurait décidé de prendre un peu de répit. Pas du tout. Il est toujours à l'affût. Et souvent, il agit lorsqu'on n'est pas conscient de lui. Souvent, il agit et lorsque nous pensons que tout marche le mieux pour nous dans le meilleur de monde. C'est là qu'il agit. C'est pourquoi nous devons toujours, à un certain moment, dans notre vie, mes amis, essayer de marquer une pause. Voyez-vous, et d'évaluer notre vie, de voir où nous en sommes. Autrement, nous risquons de nous retrouver sur une pente très glissante, tout en pensant que nous sommes encore sur la voie de l'éternité avec le Seigneur. Et par rapport à ces trois esprits, en particulier par rapport à l'esprit de Jézabel, j'aimerais que nous sachions qu'il n'y a aucune église ne trop grande, ni trop pure, ni trop spirituelle, ni trop prospère pour ne pas être attaquée par Jézabel. Nous sommes tous concernés. Je suis concerné personnellement. Vous êtes concernés, vous, Église La Borne. Vous êtes concernés, vous, membres de la maison de Dieu. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, sachons que l'ennemi fera par tous les moyens, cherchera par tous les moyens à nous distraire et nous éloigner de lui. C'est pourquoi je voudrais, avant d'avancer, eh bien, rappeler à chacun de nous la mise en garde que l'apôtre Paul avait donc faite aux anciens, aux évêques d'église, de l'église d'Éphèse. Éphèse, à l'époque, une grande ville, voyez-vous, à l'époque, une ville très prospère, une grande métropole dans l'Empire romain. Eh bien, Paul est arrivé dans cette grande métropole. Paul a implanté l'église dans cette grande ville. Mais Paul va mettre en garde les responsables de cette église. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit ceci, voilà, vous devez veiller sur vous-même. Vous que Dieu a appelé pour exercer un quelconque ministère parmi son peuple ici à Éphèse. Mais vous devez en même temps veiller sur le troupeau que le Seigneur vous a confié. Car, dit-il, je cite, « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups féroces, des loups redoutables, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Voyez-vous ? Premier danger, des loups qui viendraient de l'extérieur et pour entrer dans le troupeau, eh bien, feront tout, prendront la peau de quoi ? De brebis pour se faire accepter. Voyez-vous ? Et ils feront des dégâts énormes. Ça, c'est le premier danger. Des gens qui viennent de l'extérieur, avec une bonne apparence, voyez-vous, et qui parlent très bien, qui ont le nom de Jésus, car pour arriver à entrer dans l'église, il faut avoir le nom de Jésus, oui ou non. Qui ne viennent pas avec le nom du diable en disant non, pas du tout, mes amis. C'est tellement subtil, c'est tellement sournois, que si on n'a pas le discernement, eh bien, on ouvre grandement la porte du troupeau, la porte de la bergerie. Voyez-vous ? C'était donc le premier danger. Et par rapport à ça, Paul a demandé aux responsables de l'église, les anciens, tous ceux qui assumaient une quelconque responsabilité, de veiller, mes amis, par rapport à des éléments qui viendraient de l'extérieur, voyez-vous, pour séduire l'église, des éléments qui viendraient de l'extérieur et qui s'introduiront dans l'église, des éléments qui seraient de véritables loups, mais déguisés, voyez-vous, qui feront preuve d'une rapacité incroyable, de prédateurs spirituels, voyez-vous. Et ensuite, le deuxième danger, regardez par rapport à Éphèse, est que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses, des paroles pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Donc non seulement des éléments extérieurs viendraient, s'introduiront dans l'église et feront beaucoup de dégâts puisqu'ils se comporteront comme de véritables loups cruels et féroces, mais en même temps, du milieu de l'église, eh bien, des hommes s'élèveront pour pouvoir enseigner n'importe quoi, pour pouvoir proclamer des paroles perverses, des paroles pernicieuses, des paroles tordues. C'était une mise en garde. Et lorsque nous regardons l'histoire, nous pouvons voir que les responsables de l'église d'Éphèse n'avaient pas veillé. Voyez-vous, puisque à l'heure d'aujourd'hui, si vous allez à Éphèse, qui se trouve actuellement en Turquie, eh bien vous verrez que de cette église glorieuse, de cette église ou de cette ville qui avait fait l'objet d'une visitation extraordinaire, car Éphèse est la seule ville de tout le Nouveau Testament, la seule ville dont la Bible nous dit que Dieu avait accompli des miracles extraordinaires par Paul. Malgré ces miracles extraordinaires, les anciens, les responsables n'avaient pas veillé, et plus tard, l'ouragan des ténèbres, eh bien, se levera et balayera tout sur son passage. Vous voyez, mes amis, nous avons le devoir de veiller sur nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servantes de Dieu, en tant que responsables dans l'Église de Jésus-Christ. Nous devons d'abord et avant tout veiller sur nous-mêmes, voyez-vous, car nul n'est à l'abri. Nous sommes tous vulnérables. Alléluia. C'est là que nous avons besoin de discernement. C'est là que nous avons besoin de recevoir la parole telle que nous la trouvons dans les Saintes Écritures. Et de ne pas donner l'oreille à n'importe qui parlerait au nom du Seigneur. Car aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, le drame se situe à ce niveau-là. Les gens sont très naïfs. Il n'y a pas longtemps, mon épouse et moi, nous avons suivi quelqu'un, prophète de son état, qui a une certaine audience auprès de certaines assemblées, et qui disait ceci, qu'il avait entendu Dieu lui parler, comme ça, et vous savez ce que Dieu lui a dit? Que les gens, les chrétiens, ne devaient plus manger de la viande. Ma femme est là. Voyez? Alors, il a essayé un tout petit peu de se justifier. Il était affirmatif. Et il est prophète. Puisqu'on a montré les images de tous ces voyages un peu partout, à gauche, à droite, il draine de foule, hein, mes amis. Voyez? Lorsque quelqu'un vous dit cela, qu'est-ce que vous devriez faire? Croire à l'homme parce qu'il s'appelle prophète? Ou parce qu'on en a fait un prophète? Ou croire ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui souille. Tous les aliments que Dieu a fait est bon pour être. Ça, c'est Paul qui nous le dit. Alors, c'est ça, mes amis. C'est très subtil. Alors, les gens, ils sont presque en extase. Oh, le prophète Nabi, comme maintenant, ils aiment beaucoup l'hébreu. Hein. Nabi a parlé. Oh, on va plus manger le bon steak. Alors, je me demande, et c'est même des enseignements très dangereux. Parce que l'homme a besoin d'un apport en protéines. Oui ou non? Alors, lorsque quelqu'un, un aventurier de son état, une sorte de troubadour en perdition, arrive à enseigner des choses comme ça, eh bien, il est de notre devoir de dire à l'Église, attention, là, c'est Jézabel qui agit. Parce que, et nous allons le voir, Jézabel pousse les gens, mes amis, à croire à ce qu'elle dit, puisqu'elle s'est dit prophétesse, plutôt que d'amener les gens à ce que la Bible dit. Et il soutenait même hein, que les Saintes Écritures exagèrent ou des histoires comme ça. Ah oui, vous voyez mes amis, si vous n'avez pas le discernement, eh bien vous risquez de vous retrouver remorqué dans ce chariot prophétique, oui, en route vers la nécropole qui est vers Malouk. Donc nous devons veiller sur nous-mêmes. En même temps, nous devons veiller sur le peuple de Dieu. Alléluia. Voyez-vous? Et ensuite, Paul a dit, il les a recommandés à la parole de la grâce de Dieu, qui ajoute-t-il à la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sauvés. Alléluia. Il les a recommandés à la parole de Dieu, là. Qui seul a le pouvoir, mes amis, d'édifier. Notre foi doit être basée sur l'enseignement de la parole de Dieu. Quand bien même cet enseignement vous dérangerait. Le problème aujourd'hui, les gens, eh bien, ne veulent plus croire dans la Bible parce que, bon, il y a des choses très dures. Oui, oui, la Bible, quand nous l'approchons, eh bien, elle se révèle à nous comme un vrai miroir qui nous montre exactement qui nous sommes. Quand s'il y a une tache là, la Bible nous dit, il y a la tache là. Nous avons beau utiliser, je sais pas, un peu de poudre pour... Non. Ce sont les fausses prophéties, des faux enseignements qui saupoudrent les gens. Pour essayer un peu de cacher des cicatrices, leur laideur. Mais la laideur ne part pas parce que vous vous êtes mis un peu de... Comment? De poudre, de maquillage. Voyez? C'est comme ça, un facochère reste facochère. Ouais. Ou un potamophère. C'est aussi une sorte de facochère. Voyez? Mais il reste facochère. Vous avez beau lui mettre comment les cils ou les capentes. Comment? Le rouge à lèvres. Ouais. Vous avez beau mettre à un facochère des boucles d'oreilles, des chaînes en or.
eh bien, il reste. Ce n'est pas ça qui va changer. Mais la Bible nous révèle qui nous sommes. Si nous sommes des facochères, eh bien, la Bible nous dit que nous sommes des facochères. C'est dur à entendre, mais mieux vaut entendre cela et tout faire pour devenir une brebis du Seigneur que de continuer à se soustraire à la parole de Dieu, continuer à croire qu'on est ceci, alors qu'en réalité, on est l'incarnation de la laideur spirituelle et morale. Vous voyez? Donc, voilà comment cet esprit, eh bien, déjà à l'époque d'Éphèse. Et qu'en est-il de l'église de Thyatire? Eh bien, la situation à Thyatire n'était pas mieux. Voyez-vous? Nous l'avons souligné la fois dernière, la preuve, c'est que pour montrer la gravité de la situation morale et spirituelle de l'église qui était à Thyatire, la Bible consacre à Thyatire 12 versets. Voyez? Quand vous faites, vous comptez le nombre de versets réservés pour chacune des sept églises auxquelles le Seigneur s'adresse, vous allez voir qu'en tête, il y a l'église de Thyatire avec 12 versets. Ensuite, Laodicée avec 9 versets, et puis Éphèse et Philadelphie, 7 versets. Ensuite, Pergame et Sardes, 7 versets aussi. Et enfin, Smyrne. Une église à laquelle le Seigneur consacre seulement 4 versets. Tout ça pour mettre en exergue, mes amis, la situation catastrophique de cette église dans laquelle, hélas, eh bien, Jézabel, cette louve de l'enfer, s'était infiltrée. Jézabel, cette femme manipulatrice plus qu'une femme, un esprit séducteur, un esprit manipulateur, qui était arrivé à embarquer mes amis et les responsables et toute la communauté dans sa séduction. Et c'est là que le Seigneur va être très clair pour mettre le doigt lorsqu'il dit à cette église, « Eh bien, je sais, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton service, ta persévérance. » Et le Seigneur ajoute même, « Tes dernières œuvres, ce que tu fais pour moi, ce que tu fais pour le monde est beaucoup plus nombreux que ce que tu faisais avant. En d'autres mots, tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, n'est-ce pas? Mais tout ne s'est pas arrêté là. Le verset qui suit, il y a cette conjonction, mais c'est que j'ai contre toi. Ah! Malgré, mes amis, ce que l'Église faisait, il y avait un problème, et ce problème, c'était un esprit. Le problème, c'était cette femme Jézabel, plus qu'une femme, eh bien, un esprit, une force du mal, qui exerçait son emprise sur cette église. Et nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, comment Jézabel, eh bien, épouse d'Acab, et au-delà de cette femme, comment cet esprit, déjà à cette époque-là, mes amis, avait fait des ravages parmi le peuple de Dieu. Alors, comment résister contre l'esprit de Jézabel? C'est un esprit, je vous ai dit, comme ce prophète de son état qui arrive à dire des choses qui va en contradiction avec ce que la parole de Dieu enseigne. Ça, ce sont les manifestations de Jézabel. Vous voyez? C'est comme cet autre témoignage, un pasteur d'une très grande église aux États-Unis qui avait passé beaucoup de temps pour former les gens afin qu'ils puissent faire partie du conseil de l'église, du comité qui dirigeait l'église. Et il travaillait en collaboration pour faire avancer l'œuvre de Dieu jusqu'à ce qu'il remarque que plusieurs de ceux qui faisaient partie de son comité, eh bien, quittaient de plus en plus le comité pour partir. Chacun avait toujours quelque chose à redire sur la manière dont le comité et dont l'église fonctionnait. Vous voyez? Et à chaque fois, il devait prendre d'autres personnes, les former pour qu'ils rejoignent le comité, et à chaque fois c'était le même problème. Au bout d'un certain temps, les gens s'est découragé, les gens quittaient le comité et les gens abandonnaient tout. Jusqu'à ce qu'un jour, vous savez, Dieu est bon. Jusqu'à ce qu'un jour, un membre du comité qui lui n'était pas parti va lui rapporter une histoire. Ce membre du comité venait de parler, comme par hasard, avec une dame qui venait souvent à l'église. Et cette dame lui dit ceci, lui a appris, comme je dis, comme par hasard, qu'elle voyait dans l'église deux sœurs, deux dames, qui étaient toujours régulières, qui étaient toujours assises devant, et qu'elle les avait reconnues comme étant des dames qu'elle rencontrait autrefois dans des réunions de sorcellerie. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Et il alla informer le pasteur. Vous voyez? Toutes ces deux dames venaient et s'asseyaient toujours devant. Elles chantaient en sourdine. Tout le monde les prenait pour des sœurs très spirituelles, des sœurs très engagées, voyez-vous? Mais en réalité, c'était des sorcières. Tout en venant à l'église, elles continuaient. Ces deux sorcières ont arrivé à faire un travail de sape parmi le comité. Vous voyez, mes amis, il y a des choses, des divisions, des problèmes dans des assemblées qui ne sont pas forcément dus au fait que, bon, les gens sont difficiles, au fait que tel ou tel autre a un caractère tout trempé ou une personnalité très très difficile. Mais dans la plupart des cas, derrière, deux fois, ces caractères bizarres, il y a l'esprit de Jézabel. C'est pourquoi nous devons savoir comment, mes amis, comment combattre cet esprit-là. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais que c'est le soir, il fait chaud, et quand il fait chaud, généralement, la chair se sent vraiment à l'aise pour pouvoir tout doucement, mais sûrement, se tourner pour aller se jeter dans le bras de Morphée. Voyez? Mais ici, nous voulons nous jeter dans le bras du Seigneur. Alléluia! Alors, tu peux bouger un peu si tu vois que le sommeil essaye de te gagner à cause de la fatigue, je comprends. Il y a des gens qui sont venus directement du travail et vous pouvez bouger. Alléluia! Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, mes amis, au problème de Jézabel, dans l'Ancien Testament, le Seigneur a trouvé une solution dans la personne du prophète Élie. Alléluia. Et nous l'avons vu. Élie est apparu sur la scène biblique de manière brusque. On ne nous dit pas, on ne nous donne pas sa généalogie. Comme pour nous montrer l'urgence, mes amis, qui s'imposait. Qu'il fallait absolument que quelqu'un paraisse pour pouvoir contrer cet esprit de Jézabel. Et c'est ainsi que la fois dernière, nous avons dit que pour lutter contre l'esprit de Jézabel, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit qui se manifeste sous deux aspects. Les deux aspects de l'onction du Saint-Esprit dont l'Église a besoin aujourd'hui pour pouvoir lutter contre Jézabel, pour pouvoir lutter contre cet esprit démoniaque, eh bien, ces deux onctions sont d'abord et avant tout l'onction prophétique d'Élie, que je vais appeler, en recourant à l'hébreu, onction Eliaou. Onction Eliaou. Je reviendrai, j'avais déjà parlé un tout petit peu, parce que tout l'enseignement sur cette onction prophétique, eh bien, tourne autour de l'étymologie même du nom d'Élie en hébreu. Et la deuxième onction, c'est l'onction royale de Jéhu, ou alors l'onction Yéhou. Maintenant, vous pouvez prononcer ça en Chulouba ou... tout ce que vous voulez, Yéhou. Vous voyez? Donc, voilà les deux onctions dont nous avons besoin, mes amis, pour pouvoir lutter contre l'esprit de Jézabel. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'onction Eliaou et l'onction Yehou. Donc, pour comprendre cela, eh bien, nous allons nous tourner vers l'étymologie hébraïque de ces deux noms-là, c'est-à-dire Élie et Jéhu, pour nous permettre de comprendre quelle est la nature de cette onction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, mes amis, expérimenter cette onction et ainsi devenir une menace pour Jézabel, et combattre cet esprit-là. Premièrement, à propos d'Élie, dans 1 Rois, chapitre 17, verset 1er, c'est un des passages que j'aime beaucoup. Il nous est dit, je vous avais dit dans la version grecque, à propos d'Élie, il nous est dit, Élie, le Tishbite de Tishbé en Galade. Alléluia. Donc, il y a l'onction Eliaou. Et comme je vous avais dit, nous l'avons vu, tous les deux, que ce soit Jéhu, que ce soit Élie, sont tous originaires de Galade. De Galade. Donc, Élie le Tishbite de Tishbé en Galade. Donc, c'est en Transjordanie, au-delà du Jourdain. Vous voyez, à l'est du Jourdain. Eliaou, en abrégé Elia, ce qui a donné Élie en français, ce nom-là veut dire « Le Seigneur est mon Dieu ». Eliaou. Élie, si vous ne prenez qu'Élie, c'est « mon Dieu » en hébreu. Élie, mon Dieu. En araméen, c'est « Eloi ». C'est comme ça que vous voyez dans les évangiles où il est dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Eloi, c'est en araméen. Et Élie, c'est en hébreu. Mais ici, c'est Eliaou, c'est-à-dire mon Dieu et Seigneur. Ou en d'autres mots, le Seigneur est gloire au Seigneur. Eh bien, voilà l'étymologie, le sens, la signification du nom d'Élie. Il était donc de Tishbé en Galade. Et puis ensuite, il y a Jéhu, qui lui était des Ramoth, toujours en Galade. Tishbé en Galade, Ramoth en Galade. Et Jéhu, en hébreu, c'est donc Yehou, qui signifie celui le Seigneur. Alléluia. Donc, vous comprenez pourquoi je parle de l'onction Eliaou et de l'onction Yehou. C'est pour que nous puissions nous attarder uniquement sur l'étymologie, le sens, la signification de ce nom-là, car ces noms en eux-mêmes, mes amis, sont déjà des messages pour chacun de nous. Et nous ne pouvons pas comprendre l'onction qui a reposé sur le prophète Élie si nous ne comprenons pas l'étymologie, le sens, la signification de son nom. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler uniquement d'Élie, d'Eliaou, l'onction Eliaou. Le Seigneur est mon Dieu. Quelle est cette onction Eliaou? Ou cette onction prophétique? Prenez le terme prophétique dans le sens de prophète comme porte-parole de Dieu. Car dans la plupart des cas, souvent quand les gens pensent ou parlent de prophète, eh bien, ils voient toujours des hommes ou des femmes, eh bien, qui prédisent l'avenir, qui révèlent des choses cachées. C'est vrai, ça fait partie du ministère de prophète, mais le prophète ici, c'est dans le sens de porte-parole. Même dans ce cas-là, que ce soit pour révéler l'avenir, que ce soit pour ramener à la lumière ce qui est caché, eh bien, le prophète reste et demeure le porte-parole du Seigneur. Alléluia. Il ne fait pas ce travail pour lui. Ce ministère ou cet office de prophète n'est pas une occasion pour lui de se mettre en valeur, pour que tout le monde sache qu'on est prophète. Et c'est ça la séduction. Et nous le verrons, lorsque nous allons parler de Jéhu. Donc, le Seigneur est mon Dieu. Éliab, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de comprendre ceci, mes amis, nous devons d'abord voir un des secrets de la vie et du ministère d'Élie, là au chapitre 17, verset 1er, quand il entre en scène, il nous est dit, Eliaou, le Tishbite de Tishbé, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, le Seigneur devant qui je me tiens. Alléluia. Je sais, j'ai déjà eu à parler un tout petit peu de ce verset. Il y a des versions qui ont traduit ce texte de cette manière. Le Seigneur est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Ça, c'est déjà, mes amis, une paraphrase. Ça, c'est déjà un commentaire qu'on fait. Car littéralement, c'est que la Bible nous dit en hébreu, à propos d'Élie, ou c'est qu'Élie lui-même dit, lorsqu'il s'adresse à Acab, il lui dit ceci, le Seigneur, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Alléluia. Devant qui je me tiens. Tout le secret de cet homme se trouve, mes amis, dans ce seul verset. Dans cette parole qu'il adresse au roi Acab, qui se trouve entre autres le mari de Jézabel, oui ou non? Eh bien, le Seigneur devant qui je me tiens? Le Seigneur est mon Dieu, devant qui je me tiens. Eliaou, qu'est-ce que ça veut dire, le Seigneur est mon Dieu? Eh bien, l'accent ici est mis d'abord et avant tout sur le verbe être. Le Seigneur est. Alléluia. Quand vous ajoutez mon, et le deuxième accent est mis sur cet adjectif possessif, mon. Alléluia. Le Seigneur est mon. Donc, nous ne pouvons pas comprendre, mes amis, l'onction qui agissait sur Élie si nous ne comprenons pas le sens de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de dire que l'accent est mis sur le verbe être. Le Seigneur est... La première chose, c'est que l'accent est mis sur la relation existentielle, la relation spirituelle entre Élie et son... Alléluia. C'est un lien qui est appelé à demeurer. Il n'y a pas d'onction d'Élie. Mes amis, si nous n'arrivons pas à avoir, à développer, à continuer à entretenir notre relation, mes amis, avec le Seigneur. Et puis ensuite, est mon Dieu. Donc, ce Dieu-là, qui est appelé à devenir notre, c'est à nous de travailler. Et il n'y a pas d'onction. Si nous ne mettons pas l'accent sur l'être, le Seigneur est mon Dieu. Si nous ne travaillons pas notre relation, mes amis, existentielle, notre relation vivante avec Dieu, et qui parle de relation, parle de quelque chose de dynamique, quelque chose qui est appelé donc à grandir et à croître alors que le temps passe. Le Seigneur est mon Dieu. Vous comprenez pourquoi? Depuis toujours, l'appel du Seigneur envers son peuple a toujours été le même. Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Alléluia. Donc, nous devons mettre l'accent sur l'être, car l'être vaut mieux que le faire. Nous avons déjà eu à en parler. L'être vaut plus que tout ce que nous pouvons faire. Voyez-vous? Et justement, la ruse, la subtilité de cet esprit Jézabel, c'est de mettre l'accent plus sur le faire en distrayant les croyants de ce qui devrait être leur priorité, à savoir leur être. Mes amis, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est d'abord et avant tout ce que nous sommes. Nous sommes vis-à-vis des hommes ce que nous sommes d'abord et avant tout vis-à-vis du Seigneur. C'est notre relation avec le Seigneur qui va déterminer notre grandeur. Nous pouvons avoir une foule comme celle-ci, prêcher devant 10 000 personnes, 15 000 personnes, et être des nains aux yeux de Dieu. Ce n'est pas la foule qui fait la grandeur de l'homme. Ce n'est pas l'extérieur. Ce ne sont pas les titres, frères et sœurs. Jean-Baptiste n'avait rien qui pouvait attirer le gens. Il avait un vêtement en peau. Il se nourrissait de miel et de sauterelles. Et pourtant, il était grand. Jésus a dit, parmi ceux qui sont sortis du sein d'une femme, il n'y a pas de plus grand que... Alors dites-moi, mes amis, ce ne sont pas, son titre qui faisait sa grandeur, mais c'est la relation qu'il avait avec son Dieu qui avait fini par déterminer sa grandeur. Nous aussi, mes amis, dans cette recherche de l'onction Eliaou, nous devons apprendre à nous occuper plus de nous que de ce que nous pourrions faire pour Dieu et pour les autres. Voyez, nous intéresser à l'être plus qu'au faire. Car pour Dieu, l'être vaut plus que tout. Ce que nous faisons passera, mais ce que nous sommes est appelé à demeurer éternellement. Alléluia. Puisque tu as été fidèle, voyez, puisque tu as été fidèle dans les petites choses, je t'en confierai des grandes. Entre dans la joie de ton maître, dira le Seigneur en ce jour-là, à tous ceux qui auront travaillé dans la fidélité. Donc, l'accent à ce niveau est mis sur l'être, la relation. Le Seigneur est... Gloire au Seigneur. Voulons-nous avoir cette onction prophétique, cette onction Eliaou parmi nous, cette onction qui met Jézabel en déroute? Eh bien, soyons des hommes et des femmes qui cherchent d'abord et avant tout à soigner leur relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de chacun de vous, que vous soyez pasteur, que vous soyez évangéliste, que vous soyez docteur, prophète ou apôtre, que vous soyez simple chrétien, diacre, ancien, évêque, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez vivre dans la sanctification. C'est la pureté du cœur. Dieu n'a que faire de ce que nous pourrions faire pour lui. S'il voulait absolument que des gens le servent, voyez-vous, s'il mettait, si pour lui, le service que nous sommes censés accomplir envers lui était beaucoup plus important que nous, notre être, ben, il aurait simplement envoyé des anges. Les anges le serviraient mieux que nous, oui ou non? Eh bien, ce qui intéresse Dieu, mon frère et ma sœur, c'est ta vie. C'est la condition de ta vie. Tu ne peux pas entrer dans cette onction-là si tu ne travailles pas ton cœur. Voyez-vous, si tu ne veilles pas sur ton cœur, c'est pourquoi la Bible nous dit, veille sur ton cœur plus que sur tout autre, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est une relation profonde avec le Seigneur qui va nous ouvrir la porte de l'onction Eliaou. Nous devrions plus nous préoccuper de nous, mes amis. Donc, ici l'accent par rapport à Eliaou est donc mis sur la relation existentielle, la relation vivante que Élie avait avec son Dieu, voyez-vous, et de cette relation alors, il a reçu la capacité de défier Jézabel. Il a reçu l'onction, mes amis, onction qui lui a permis de défier les faux prophètes, c'est-à-dire les prophètes de Baal et d'Astarté. C'est cette onction-là. Elle ne nous tombe pas au hasard, mes amis. Et on ne la ramasse nulle part. Vous pouvez vous lancer dans de jeûnes, de longs jeûnes de 40 jours. Ne jamais recevoir cette onction-là. La chair peut s'agiter, oui, la chair aime ça. Cette onction est le résultat d'une vie de plus en plus marquée par la sanctification, par la crainte de Dieu, par la pureté du cœur, alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu dans la plénitude de la foi, alléluia. Approchez-vous de Dieu avec des cœurs purs, avec une conscience irréprochable. Alors, cette onction commencera à devenir une réalité, alléluia. Oui, Eliaou, l'accent est mis sur l'être. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Voilà pourquoi, un roi, chapitre 17, verset 1er, nous dit, Lorsqu'Élie parle à Acab, il dit, le Seigneur devant qui je me tiens. Élie a appris à se tenir d'abord et avant tout devant Dieu, avant d'aller se tenir devant les hommes. Il a appris à soigner sa proximité avec le Seigneur. Il avait compris que pour être grand devant les hommes, il fallait commencer par être grand devant Dieu. Et la grandeur de Dieu, eh bien, ne peut pas être le produit de nos propres efforts. Nous sommes grands dans la mesure où nous marchons de plus en plus avec le Seigneur. Alléluia. Dans la mesure où nous entrons dans une relation de plus en plus intime avec lui. Voilà ce que Dieu attend de nous. Peuple de Dieu, nous avons besoin de l'onction Eliaou. Mais cette onction, nous ne pouvons pas la ramasser n'importe où. Vous pouvez venir dans un séminaire comme celui-ci, et je vous encourage à venir, et repartir le cœur vide, tant que vous n'aurez pas pris la décision de vous mettre en règle avec Dieu, d'enlever toutes ces impuretés de votre cœur, eh bien, ça sera difficile d'expérimenter l'onction Eliaou. Et il n'y a pas d'autre moyen de chasser, d'éloigner Jézabel que de vivre, mes amis, que de posséder son corps dans la sainteté. Alléluia. C'est encore la sainteté et toujours la sainteté. La pureté du cœur, mes amis. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Amen. Donc, tout commence là. Le Seigneur devant qui je... Et la première question alors est de savoir, est-ce que dans l'état où je suis, je peux vraiment me tenir devant Dieu? Voilà la première question. On peut se tenir devant un pasteur, devant un diacre, un ancien. Ils ne sont que des hommes. Voyez-vous? Voyez-vous? Mais peut-on vraiment, pouvez-vous vraiment vous tenir devant Dieu et ne pas vous reprocher quelque part de quelque chose? N'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième vérité, par rapport à l'onction Eliaou, c'est qu'Élie, non seulement c'était un homme qui se tenait devant Dieu, qui passait du temps avec lui, voyez-vous, un homme qui était façonné dans la présence du Seigneur, taillé par le divin potier, n'est-ce pas? Mais Élie était un homme qui avait aussi compris que pour vivre l'action de Dieu, pour vivre la manifestation de la puissance de Dieu, il fallait dresser l'autel, et c'est ce qu'il a fait au Mont Carmel. Alléluia. Au Mont Carmel, face aux faux prophètes, face, mes amis, à ces hommes qui avaient contribué à l'égarement et à la perdition du peuple de Dieu par des faux enseignements, par des fausses prophéties, par des fausses visions, face à tous ces gens-là, Élie, qu'a-t-il fait, mes amis? Eh bien, il a simplement rétabli l'autel, alléluia, selon la parole de Dieu. Il a dressé l'autel selon la parole de Dieu. Il a agi selon la parole de Dieu. Et résultat, le feu de Dieu est descendu. Et le feu a confondu tous ces prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient manipulés par l'esprit de Jézabel. Il n'en est pas autrement aujourd'hui. Nous avons besoin que le feu descende au milieu de nous, oui ou non? Pas n'importe quel feu, celui qui vient d'en haut. Mais ce feu ne descend que lorsque nous apprenons à dresser, à rétablir l'autel selon la parole de Dieu. Et Élie a dressé l'autel. Élie s'est tenu devant Dieu, derrière l'autel. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a imploré Dieu. Il a crié au Seigneur. Et résultat, puisque c'était son Dieu, résultat, eh bien, le ciel s'est ouvert et le feu de Dieu est descendu. Oh, gloire au Seigneur. Croyez-vous que nous ayons encore besoin aujourd'hui de ce feu-là? Est-ce que vous croyez que nous avons encore besoin de ce feu-là? Eh bien, si les apôtres, eux qui ont mangé avec le Seigneur, avant de se lancer dans ce ministère, avant d'être une menace pour les différents esprits séducteurs, ont eu besoin de ce feu-là, feu qu'ils ont reçu dans la chambre haute, à combien plus forte raison nous, qui vivons plus de 2000 ans plus tard, nous avons besoin de ce feu-là. Car l'ennemi, mes amis, ne peut être inquiété. Jézabel ne peut être inquiété que par le feu qui descend d'en haut. Et ce feu-là ne descend jamais au hasard. Il faut que nous arrivions
à dresser l'autel. Alléluia. Il faut que nous mettions une victime sur l'autel. Il faut que nous agissions selon le Seigneur. Alors, il enverra le feu. Nous reviendrons là-dessus un peu plus en profondeur. Mais tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui, mes amis, qu'il n'y a pas d'autre solution contre Jézabel que l'onction Eliyahu. Et cette onction-là, mes amis, est la conséquence, le résultat d'une vie totalement engagée en Christ. Une vie qui s'approche régulièrement du Seigneur lui-même. Il faut que nous arrivions à dire, avec Élie, le Seigneur devant qui je me tiens. C'est lui. Et ça n'arrive pas, on se tient seulement aujourd'hui, on passe du temps et puis c'est fini. Il dit, voilà, Seigneur, j'attends maintenant l'onction Eliyahu. Vous voyez, c'est toute une vie. Nous devons nous approcher. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Nous devons donc, frères et sœurs, comprendre que cette onction-là, Dieu veut nous la donner. Dieu veut la répandre sur son Église. C'est la seule onction qui va nous permettre de discerner la manière d'agir de Jézabel. C'est cette onction qui va nous aider, mes amis, à mettre en déroute ces esprits-là. Et quelquefois, sans que nous ayons à les discerner, simplement par notre vie de sainteté, simplement par une vie entièrement engagée dans la personne de Jésus, Jézabel elle-même va s'éloigner. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui quittent l'Église. Quelquefois, c'est une bonne chose. Vous ne savez pas de quoi ces gens-là étaient, de quel esprit ils étaient animés. Il y a des gens qui viennent gonfler les rangs dans le but de créer des problèmes. Voilà. Ils sont là, ils ne voient que les défauts auprès de la femme du pasteur. Quand quelqu'un l'avait dit, la femme du pasteur, c'est toujours la femme la plus critiquée. Voilà. Si elle est régulière aux réunions, oh, elle se montre. Si elle se met à chanter à la chorale, oh là là, à diriger, voilà. C'est pour qu'on la voit. Si elle ne vient pas aux réunions, elle se désintéresse de la vocation de son mari. Mais alors qu'elle fasse quoi? Vous voyez? Donc, vous voyez, mes amis, nous devons faire très attention. Nous avons besoin de cette onction. Les temps sont mauvais. Voyez, n'essayons pas, ne nous laissons pas distraire par ce que les uns et les autres font. Mais que seule la parole de Dieu reste notre, mes amis, notre seule source d'énergie spirituelle et morale. Alléluia. C'est à la lumière de la parole de Dieu que nous pourrions discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Ne soyez pas de ceux qui donne du crédit à tout miracle. Pas du tout. Lorsque Moïse a accompli le miracle chez Pharaon, son bâton est devenu un serpent. Les devins, les sorciers de Pharaon, qu'ont-ils fait? Ils ont fait quoi? Ils ont fait la même chose. Voyez, mes amis, Jésus lui-même a dit que beaucoup viendront en disant, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Je leur dirai que je ne vous. Alors faisons attention. À propos de l'homme impie, cet homme qui doit venir, qui va séduire le monde entier, cet homme qui va naître, sur qui l'onction satanique va reposer, à propos de cet homme impie, la Bible nous dit que son apparition se fera par beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. C'est la Bible qui le dit. Alors Jésus a dit, quand vous entendrez et qu'on vous dira, tiens, Jésus est là-bas, n'y allez pas. Ça veut dire quoi? Quand on vous dira, mais celui, il fait des miracles, n'y allez pas. Voyez-vous, il nous a tout donné. Tout est là-bas, mes amis. Voyez, tout est là-bas. Il n'y a pas de plus grand miracle que la métamorphose d'une vie. Alléluia. Que la métamorphose d'une vie. Gloire au Seigneur. Le diable peut tout faire, mais le diable est incapable de simuler la vie de Dieu. Ne peut pas amener la nouvelle naissance, ne peut pas permettre à quelqu'un de grandir.
C'est là que, quand nous allons parler de l'onction Yehou, nous allons voir les dangers qu'il y a à construire son autel avec des matériaux qui viennent de la part de faux prophètes, de faux docteurs, etc. C'est ça le danger. Vous pouvez le recevoir, vous dites, bon, après tout, ça ne me fait ni chaud ni froid. Attention, l'autel, et demain nous en parlerons, dresser l'autel, eh bien, c'est avoir le matériau avec lequel le dresser, oui ou non. Vous ne pouvez pas rétablir l'autel comme ça, à partir de rien. Vous devez avoir quelque chose. Mais où trouver ce matériau-là? Et quelle est la forme de l'autel? Voilà. Nous devons calquer notre modèle de quelque part. Et le problème se situe à ce niveau-là. Voyez? Eliyahu, le Seigneur est mon Dieu. Voyez-vous, l'accent est mis sur l'être. Et nous devons tout faire pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Et je voudrais qu'aujourd'hui, demander à chacun de nous de s'examiner d'abord. Si nous pouvons incliner nos têtes dans la prière, que chacun s'examine. Avant de voir le miracle que le Seigneur peut faire pour vous, vous donner un travail, vous donner un enfant, un mari, une épouse, vous ouvrir la porte du succès dans les affaires, de la réussite dans les études, etc. Avant tout cela, c'est que Dieu attend de vous que chacun d'abord et avant tout regarde à lui-même. Dans quel état es-tu? Voilà. Tu ne peux pas combattre Jézabel seul. Tu dois être avec le Seigneur. Tout commence par là. Le Seigneur est mon Dieu. Peux-tu dire ce soir que Jésus est vraiment ton Dieu? Ou alors tu le connais simplement de manière intelligente, de manière religieuse, mais tu n'as pas une relation personnelle, une relation existentielle qui t'amène à dire « Jésus est mon Dieu ». Entre lui et moi, il y a une relation. Et une relation ne s'établit pas au hasard. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une relation conjugale au hasard. Comme ça, tiens, j'étais quelque part, pof, il devient mon mari, elle devient mon épouse. Pas du tout. C'est un choix qu'on doit faire. Alors que chacun s'examine. Je vais faire quelques appels. Mon premier appel concerne ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur dans leur vie. Ceux qui n'ont jamais pris la décision de confier leur cœur au Seigneur. Voyez-vous, je ne parle pas de ceux qui ont l'habitude d'aller à l'église, qui ont l'habitude d'aller à la messe, qui ont l'habitude d'avoir une religion et qu'ils respectent dans la mesure du possible. Mais je parle d'avoir une expérience personnelle avec Jésus. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, eh bien, ceci te concerne. Si tu veux, ce soir, le recevoir dans ton cœur comme sauveur et enfin avoir une relation entre lui et vous, une relation vivante, existentielle, je vais te demander simplement de lever ta main là où tu es et nous allons te conduire dans la prière. Alléluia. Je voudrais que ceux qui sont dehors puissent veiller. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci. Le Seigneur est là. Si vous voulez le recevoir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'autre choix, mes amis. Tout commence par là. Le Seigneur, mon Dieu. Il faut que ce Dieu-là devienne ton Dieu. Alors lève la main où tu es. Et nous allons prier pour toi, alléluia. Merci Seigneur. Voulez-vous bien vous lever, vous qui avez levé la main, et nous allons prier pour vous. Il n'y a pas de honte, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, mais nous sommes là pour vous faire entrer dans une relation qui vous permettra de grandir et d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Car il n'y a que Jésus, et Jésus seul, qui peut sauver votre vie, qui peut vous changer, qui peut vous transformer, qui peut vous métamorphoser, vous transfigurer et faire de vous un être digne. Merci. Vous allez prier après moi. Faire de votre prière et à la fin, merci pour les personnes qui se lèvent. Merci. Vous allez faire cette prière et à la fin, on va vous donner un bout de papier avec les coordonnées. Attendez d'abord qu'on fasse la prière, s'il vous plaît. Tenez-vous simplement à côté des gens qui se sont levés. Et puis ensuite, vous pourriez, là vous allez noter, cocher la case qui correspond à votre prière. Nous allons nous incliner nos têtes dans la prière. Je vais demander donc à tous ceux qui se sont levés de faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel. Et ce soir, je réponds à ton appel en me levant, Seigneur. Merci de ce que tu m'aimes. Et dans ton amour, tu es mort pour moi à la croix. Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Et je voudrais ce soir, ô Dieu, t'ouvrir mon cœur et te demander, Seigneur, à entrer dans ma vie. Mais avant cela, je te demande pardon. Pardonne ma vie de péché. Pardonne, Seigneur, tout le mal que j'ai fait, tous les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, car à la croix, tu es mort à cause de mes péchés. Seigneur, merci de me pardonner et d'entrer dans ma vie. Je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Entre dans ma vie, Seigneur, que je ne vive plus ma vie comme je le veux, mais que je la vive avec toi et par toi. Merci, Maître, d'être venu dans ma vie. Je deviens ta fille ou ton fils. Merci, Maître, je te reçois. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi, ô Dieu, à vivre selon toi. Que tu me viennes au secours de mes faiblesses. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Vous restez debout, je vais prier pour vous pendant qu'on vous donne le papier là où vous allez cocher la décision que vous avez prise. Je vais prier pour vous. Alléluia. Merci, vous allez cocher ça après. Mais je vais prier pour vous. Seigneur, mon Dieu, je voudrais te remercier pour toutes ces personnes qui se sont levées et qui t'ont accepté comme sauveur, comme Seigneur dans leur vie. Seigneur, ces personnes avaient une religion. Ces personnes avaient une certaine croyance, Seigneur, de toi. Ils avaient une certaine image de toi. Mais ces personnes n'avaient pas de relation vraie, réelle, vivante, existentielle avec toi. Mais ce soir, ces personnes t'ont ouvert la porte de leur cœur et t'ont invité à venir dans leur vie. Et par amour pour ces personnes, Seigneur, par amour pour chacune de ces personnes, tu es venu dans leur vie. Et je te remercie de ce que ces personnes, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, sont à toi. Ces hommes et ces femmes peuvent repartir de ces lieux avec une ferme assurance que tu as répondu à leurs prières. Seigneur, que désormais, elles ne sont plus seules à vivre, à se battre contre telle ou telle autre faiblesse. Désormais, elles ne sont plus seules à résister contre l'attrait du monde. Mais désormais, tu es en eux, dans chacun d'eux, Seigneur. Désormais, tu es avec eux, tu es pour eux. Et avec toi, ils peuvent désormais résister au péché, quel qu'il soit. Désormais, la victoire est possible pour chacune de ces personnes. Oh, je te prie, Seigneur, de les garder désormais, d'éloigner le mal de leur vie et de leur accorder la victoire, celle que tu nous as acquise à la croix de Golgotha. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous rasseoir. Nous gardons nos têtes baissées. Je vais maintenant prier pour tous ceux qui, quelque part, tout en étant avec le Seigneur, se rendent compte qu'elles ont été la victime de cet esprit d'aveuglement, de manipulation. Cet esprit t'a amené à faire des choses que tu n'aurais pas dû faire, à croire dans certaines hérésies, dans certains enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur a ôté le voile qui planait sur votre intelligence. Et vous aimeriez que nous prions pour vous. Vous pouvez vous lever là où vous êtes. Et nous allons prier. Et la communauté va prier pour vous. Alléluia. Merci pour les personnes qui se lèvent. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, elles sont un peu partout dans la salle. Oh, le Saint-Esprit passe et fait lever certaines personnes. Merci. Tous ensemble, nous allons prier. Vous qui vous êtes qui vous êtes levés, vous pouvez lever vos mains vers le ciel et nous allons demander à ce que le Seigneur les remplisse, que le Seigneur dépose dans vos mains cette grâce dont vous avez besoin, que le Seigneur vous libère de l'attrait, de l'influence de Jézabel, cet esprit de souillure, cet esprit d'impudicité, d'inconduite, cet esprit qui vous a amené à nager dans des choses immorales et abominables. Nous allons prier, nous allons briser cette influence dans le nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui sont restés assis puissent se joindre à moi pour implorer la grâce de Dieu sur ceux qui se sont levés. Prions tous ensemble, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Tu as vaincu à la croix. En ton nom, nous avons la victoire sur le Jézabel impudique, sur le Jézabel idolâtre, sur le Jézabel fausse prophétie. Dans le nom de Jésus, nous brisons l'influence. Nous brisons l'influence démoniaque, l'influence de l'esprit de Jézabel sur la vie de toutes ces personnes. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour la victoire de la croix. Oh, Maître, merci. Oh, alléluia. Oh, merveilleux Sauveur. Merveilleux Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Pose ta main. Pose ta main, Seigneur. Passe dans le rang. Libère les captifs. Libère les consciences aveuglées par Jézabel et amène-les au pied de ta croix. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Maître. Merci Jésus. Nous bénissons ton nom pour la victoire que tu nous as acquise à la croix. Seigneur, merci. Et nous voulons t'acclamer pour cette victoire. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Merci Jésus. Merci Maître.